Il y a quelques semaines, une dame de ma famille m'a dit « Ah, tiens, j'ai un truc rigolo à te faire écouter ». Elle a sorti son téléphone, elle a ouvert WhatsApp et j'ai vu s'afficher un nombre incalculable de messages vocaux. Avant de les lancer, elle m'a donné quelques éléments de contexte. « Voilà », m'a-t-elle dit. On était en train de discuter avec ma copine Anne sur WhatsApp, on s'écrivait des messages et on s'est mis à parler d'Instagram. Enfin, plus exactement, je lui ai demandé de m'expliquer Instagram. Parce que tu vois, bon, on a toutes les deux la soixantaine, moi je sais qu'elle y est, j'ai envie de m'y mettre, mais je sais pas trop comment faire. Et au bout d'un moment, je sais plus laquelle de nous deux a proposé qu'on s'envoie des vocaux. Et voilà, j'ai gardé nos messages, je me suis dit que ça pourrait t'amuser. Je la connais depuis longtemps, Jeanne, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et je l'aime bien, elle est prof de flûte dans une école de musique, elle parle avec une voix très douce, ce qui teinte tout ce qu'elle dit d'une sorte de halo post-baba cool. Quand je l'écoute parler, j'ai toujours l'impression d'être au coin du feu avec une veste en peau de mouton sur le dos et un joint au coin des lèvres. Ça me plaît beaucoup. Mais sa copine Anne, elle, je la connaissais pas du tout. Jusqu'au moment où Jeanne a lancé l'écoute des messages. Et là, il s'est passé un truc. J'ai adoré leur discussion. Et elle m'a évoqué plein de choses. D'abord, plein de choses sur la manière dont les gens se parlent du numérique. Parce que voilà, nos usages, les plateformes, nos smartphones, les algorithmes, etc. sont aussi des sujets de conversation. On le constate tous les jours, hein, et moi j'adore écouter les gens discuter de ça dans le métro, dans un café ou dans une réunion de famille. Mais à part quelques travaux de sociologues et d'ethnographes, on ne documente pas beaucoup ce type de discussion un peu décousue, un peu triviale. Bref, cette discussion, je l'ai prise comme un document. Deux femmes d'une soixantaine d'années qui se demandent quoi faire d'Instagram.
Le code a changé.
Ensuite, je l'ai prise aussi comme un document sur les manières de se parler qui sont induites par nos outils. Le vocal, c'est un moyen assez nouveau, alors ça donne lieu à des conversations nouvelles. Je sais pas si on se dit autre chose, mais on se le dit peut-être un peu différemment. Enfin, ça m'a fait réfléchir à ça aussi. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un épisode bizarre. Un petit truc pour démarrer l'année en douceur. Je vais écouter deux personnes discuter, puis voir ce que ça provoque, ce à quoi ça me fait penser. Une petite forme modeste. On commence donc au début. Même si dans le transfert des messages, il y a eu quelques ratés et que je ne suis pas toujours très certain de l'ordre. Mais bon, disons que ça, c'est le début. Jeanne et Anne ont donc décidé de passer de l'écrit au message vocal. Et là, tout de suite, surgit une question technique. Comment on fait un vocal sur WhatsApp ?
Tu veux dire, pour pouvoir envoyer un message vocal, tu appuies en constant, tu tiens appuyé sur le micro avec ton pouce.
En fait, tu m'as envoyé un message vocal là, mais j'arrive pas à l'ouvrir.
Ben voilà, la technique, ça pose des problèmes de manipulation. Même quand on sait comment ça marche. Moi, je me moque pas du tout des problèmes comme ça, parce que j'en ai tout le temps. La nature m'a affublé de bouts de doigts un peu larges, ce qui est un avantage dans certaines circonstances, mais rend malaisée l'interaction avec les écrans tactiles. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à maintenir le micro appuyé quand je fais un vocal sur WhatsApp. Alors, je sais bien qu'il existe un moyen de faire un message en main libre, mais par paresse, je n'ai jamais cherché à savoir en quoi consiste ce moyen. Donc, je dois maintenir le micro appuyé pendant tout le message, et en général, ça foire. Donc, je suis à fond avec Jeanne. Cela dit, elle a manifestement résolu son problème technique parce que la formation sur Instagram commence et Anne l'ouvre naturellement en expliquant la raison qui l'a amené à s'y inscrire.
Ah ben, au départ, c'est Raphaël qui m'a inscrite un soir de jour de l'an et c'était pour être en contact avec elle surtout. Et puis, j'ai tenté le jeu pour la peinture, quoi, de faire commencer à publier des petits comptes comme ça. Vraiment, sans en attendre rien.
Intéressant. L'arrivée d'Anne sur Instagram est doublement socialisée. Elle se fait pendant un moment social, une soirée de Nouvel An, et dans un but social, rester en contact avec quelqu'un, Raphaël, que je ne connais pas. Donc une interpénétration très forte entre les relations sociales physiques et les relations sociales numériques. Autre chose intéressante, la mention de la peinture. Il y a une volonté sociale, mais aussi l'envie de montrer quelque chose. Et j'aime bien quand Anne dit « sans en attendre rien ». Au début, je ne sais pas si ça s'applique à l'ambition sociale, donc rester en contact avec Raphaël, ou à ce qu'elle veut montrer. Mais Anne précise.
« Et j'ai bien fait, Mais ça m'a permis de trouver, mais alors pas grand-chose, hein, franchement, parce que ils te font toujours tourner, quand tu likes, ça y est, tu tournes autour des mêmes personnes, c'est très fermé, voilà ce que j'en pense, c'est assez nul à chier, mais il paraît que ça a bien changé, quoi. C'est depuis 2018 que c'est nul à chier.
Avec ces mots, Anne décrit donc un phénomène qu'on observe tous. La manière dont l'algorithme sélectionne pour nous les contenus produit un effet d'enfermement. C'est ce que Elie Pariser avait théorisé sous le nom la bulle de filtre. Et même si cette notion a fait l'objet de critiques, hein, notamment parce que on est tout autant enfermé dans nos goûts dans la vie physique que dans la vie numérique, eh ben on la voit très bien à l'œuvre dans Instagram. Pour ma part, je fréquente assez peu la plateforme. Néanmoins, à chaque fois que j'y vais, arrivent en tête les contenus d'une connaissance que j'aime bien, hein, mais dont la vie réticulaire ne m'intéresse pas du tout. Et pourtant, j'en suis le témoin constant. Sans comprendre pourquoi on m'impose de la voir dans un taxi à New York, dans un bar à Paris, allongé sur une pelouse dans un parc. Alors, est-ce que c'est dû à sa productivité? Est-ce que c'est dû au fait que peut-être, il y a 5 ans, j'ai liké une de ses photos? Je n'en sais rien. C'est nul à chier depuis 2018, dit Anne. Alors pourquoi cette date? Si on s'en réfère au moment où Instagram a cessé d'afficher les publications par ordre antéchronologique au profit d'un choix algorithmique qui prend en compte plein de critères, hein, ce serait plutôt 2016 la date. Mais bon, en fait, peu importe. Ce que je trouve intéressant, c'est que Anne sait qu'il y a eu un changement. Et ça illustre assez bien ce que disait Nicolas Nova dans un épisode précédent, quand il parlait de l'usage réflexif et informé qu'on faisait de nos services numériques. On n'est pas ignorant des travers des services qu'on utilise, mais on les utilise quand même. L'état qui nous définit le mieux, ce serait une forme de contradiction. Bon, la question que je me pose, c'est aussi d'où lui vient cette information à Anne? Et bon, je me dis que peut-être on le saura plus tard. En attendant, elle continue sa description pas hyper euphorique.
Alors, quand tu vas voir en haut, là, tu vois la personne, combien elle a de publications, combien elle a d'abonnés. Et puis, combien elle-même, tu peux aller voir ses abonnés à elle. Alors, ça te permet, quand c'est des peintres, de voir d'autres peintres, de découvrir des trucs. Voilà, à travers ça, un petit peu. Tu rencontres quelques personnes, mais après, voilà, c'est comme dans la vie, faire ton choix. Il y a des belles personnes, mais il y a beaucoup de merde.
Comme dans la vie, ouais, c'est sûr. Enfin, est-ce que c'est vraiment comme dans la vie? C'est une question que je me pose souvent au sujet des réseaux sociaux. Les gens y sont-ils comme dans la vie? Cette question, bon, elle se pose évidemment pour les gens qui, dans les réseaux, insultent, harcèlent, menacent, etc. Est-ce qu'ils le feraient en face à face? Est-ce qu'ils le font en face à face? Bah, dans certains cas, oui, sans doute, dans d'autres, non. Mais bon, il n'empêche que ce sont des actes néfastes en eux-mêmes. Mais cette question, je me la pose aussi pour des gens qui ont une présence non néfaste. Que dit de moi la personne que je suis dans les réseaux? Pourquoi ce type très timide que je connais raconte-t-il sur Twitter des détails de sa vie qui presque me gênent? Pourquoi cette fille si peu séductrice dans la vie se met-elle en scène comme ça sur Insta? Pourquoi moi, qui ne crains pas tellement l'exposition, hein, voilà, recherche, sinon je ferais pas le métier que je fais, et ben pourquoi je suis aussi discret dans les réseaux? Donc ouais, je suis d'accord avec Anne, sur le plan statistique, il y a sur Instagram des belles personnes et beaucoup de merde, comme dans la vie. Mais est-ce que ce sont les mêmes sur Instagram et dans la vie? Ça, je sais pas. Bref, je continue d'écouter Anne décrire.
Alors du coup, quand tu aimes les gens, tu t'abonnes. Tu cliques sur abonnement. Et normalement, tu devrais pouvoir continuer à les suivre, du coup. Mais alors, il faut faire attention à ne pas s'abonner à de la merde. Mais après, tu peux te désabonner, on s'en fout. Parce qu'il y a un moment, tu as tant d'abonnements que les choses pas utiles, il faut les enlever, quoi. Après, tu as le feed, comme ils disent, c'est-à-dire le compte. Alors là, il faut cliquer sur l'image, c'est-à-dire sur la photo de la personne. Et après, là, ça t'amène sur le compte ou le feed, comme disent les pros. Alors là, c'est quand tu publies, c'est publié sur le truc que tu fais défiler là avec ton pouce. Et là, ben, oh, ça reste.
Bon, j'imagine que le ça reste est en opposition aux stories, mais j'ai pas de trace de la description des stories dans les messages que m'a transmis Jeanne. Bon, soit il m'en manque, soit la description des stories a eu lieu par écrit ou en direct au téléphone, je sais pas. Ouais, mon archive est lacunaire, comme souvent les archives, et donc il faut combler les trous. Je continue.
Il faut savoir bien programmer ton compte Insta. Une fois, Magali Cazo, justement, a fait une story sur, là-dessus pour pouvoir sélectionner, continuer à pouvoir voir les gens que tu aimes. Donc, il faut les sélectionner au début. Et, parce que sinon, Insta, c'est pourri je ne sais pas comment on dit là, enfin, leur sélection là. Il y a des gens que t'aimes, si tu les likes pas, tu les vois plus. Hein. Oh là là, ça y est, ils disparaissent. Et tous les gens bien, ils disparaissent facilement. Il n'y a que la merde qui reste hein, sur Insta. Donc, il faut savoir bien programmer le truc, ce que je ne sais pas bien faire à la base. Elle, Magali Cazo, elle sait très bien faire.
Deux trucs me font marrer. D'abord, la question de la compétence. Elle n'arrête pas de s'y référer, Anne. Il y a les pros et les autres, ceux qui savent faire et les autres, parmi lesquels, évidemment, elle se compte. Hein. Mais savoir faire quoi ? Ben, garder visible ce qui nous intéresse, lutter contre la propension du programme à nous dicter ce dont il présuppose que ça nous intéresse, ou plutôt ce dont il a intérêt lui-même à ce que ça nous intéresse. Bon. La compétence, c'est donc une faculté à s'approprier la plateforme pour lui imposer nos exigences. C'est comme ça qu'Anne l'a décrit en creux, hein. Et je trouve que c'est une assez bonne définition. Alors ensuite, cette Magali Cazo dont parle Anne, et dont j'imagine que Jeanne la connaît aussi, hein, enfin c'est en tout cas ce qui est suggéré, eh ben je sais pas qui c'est. Alors je regarde, d'après son compte Instagram, elle dessine et elle peint, elle a l'air de vivre en Ardèche, mais je suis pas sûr, elle est sur Insta depuis décembre 2017, elle a un peu plus de 22 000 followers, c'est pas mal ça, pour 300 publications en 5 ans. Bon, il faut dire qu'elle maîtrise l'outil, hein, Magali Cazo. Elle alterne des photos de ses œuvres avec des vidéos qui montrent la peinture à la gouache en train de s'élaborer. C'est impressionnant, c'est très bien filmé. Elle réussit à transformer la contrainte imposée par Instagram, parce que dans le feed, hein, les vidéos ne peuvent pas dépasser une minute, en quelque chose de vertueux, de beau. Alors je comprends assez bien l'admiration qu'elle déclenche chez Anne. Bon, je lance le vocal suivant. Ah tiens, c'est Jeanne qui parle.
Et les followers, c'est quoi ?
Les followers, ben c'est les likes, là, c'est... Mais il faut s'en foutre, en vérité. Il n'y a que les cons que ça intéresse, hein, franchement. Mais c'est qu'il y a des gens, ça leur permet après d'être sponsorisés, tout ça. Alors là, c'est ceux qui font du commerce avec Insta. Mais nous, en vérité, on s'en fout. Bon. Mais les cons, ça les intéresse pour exister, mais c'est pas nous. Nous, on s'en fout, quoi. Enfin, on n'est pas ça. Tu peux même cacher ce truc-là. T'es pas obligé que ça soit visible, les flowers. Il y a des gens qui s'en foutent tellement.
Moi, je me demande. Moi, je crois que je vais être sensible à ça, quand même. Savoir qui ça a intéressé.
Bien sûr que tu y es quand même sensible. Moi, le jour où Magali Cazo, elle a accès et qu'elle me voit et que si elle me like un de mes trucs, ça va me toucher, hein, ça c'est clair.
Ah oui, évidemment, tu vois qui c'est qui t'a liké, quoi. Ça c'est bien.
Ce que je trouve beau là-dedans, c'est encore une fois la contradiction. On s'en fout du nombre de followers, mais enfin, évidemment, on est quand même sensible au nombre de personnes que ça intéresse. Et à la qualité des personnes que ça intéresse. Si Magali Cazo me suit et me like, eh ben c'est la consécration. Et le « Ah, c'est bien de savoir qui nous like » de Jeanne, eh ben il est marrant. Elle le dit comme si c'était un service rendu par la plateforme, un truc sympa qu'elle nous permet. Alors qu'évidemment, c'est central dans le fonctionnement d'Instagram. Liker des publications, c'est un signe, évidemment, dont celui qui like attend qu'il soit interprété. Je me souviens d'une copine me racontant qu'un type qu'elle avait rencontré à une soirée avait, dans la nuit qui avait suivi cette soirée, liké plein de photos de son compte, mais surtout des photos anciennes. Il avait plongé dans le compte, et pour elle, ça, que ce type plonge dans un compte, dans son compte et like, eh ben, c'était une forme de déclaration. Bon, message suivant, Anne reprend sur cette question précisément.
Mais sur Insta, il faut bien maîtriser justement cette visibilité que je maîtrise mal. Pourtant, elle avait expliqué, mais avec mon téléphone pourri, tout ça, j'y arrivais pas. Mais c'est ça qu'il faut bien maîtriser.
À vrai dire, je comprends pas très bien ce que Anne entend par visibilité. Bon, ce que j'aime évidemment, c'est la mention du téléphone pourri, des contraintes matérielles, etc. Mais c'est la suite qui m'éclaire quant à son souci de cette visibilité.
Alors, c'est ça, pour la visibilité, il y a plein de façons de faire. Par exemple, si tu publies, quand tu veux faire une publication sur ton feed, Après, il faut mettre des hashtags, hashtag aquarelle, hashtag je sais pas quoi, artiste, woman artiste, hashtag l'aube, hashtag. Et comme ça te fait de la visibilité par les gens qui recherchent telle chose. Il faut pas. Ça, c'est Goul qui m'a dit ça. Faut pas oublier les hashtags parce que eux aussi, ils ont un compte Insta pour la musique, quoi, que pour la musique professionnelle. Voilà, quoi.
Ah ouais, au lieu de mettre des images, tu peux mettre de la musique.
Ah bah oui, bien sûr. Tu peux mettre de la musique.
Là, je me dis que Anne est un génie. Son foutage de gueule du hashtag, il est parfait. Alors, ça me rappelle dans un premier temps un très vieux sketch du Tonight Show dans lequel Jimmy Fallon et Justin Timberlake se foutaient de l'utilisation des hashtags en glissant partout dans leurs discussions.
Hey, check it out. I brought you some cookies. Hashtag homemade, hashtag oatmeal raisin, hashtag show me the cookie.
Sweet. Hashtag don't mind if I don't. Pretty good. Hashtag get my cookie on. Hashtag I'm the real cookie monster. Hashtag no, 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 no.
Delicious, right? Yeah. Hashtag I did it all for the cookie. Hashtag LOL, 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 LOL.
Hashtag classic.
Hey guys.
Yeah, Quest?
What's up?
Hashtag shut the f*** up.
Et ouais, même 10 ans après, c'est toujours aussi marrant ce sketch. Alors cela dit, entre-temps, l'usage du hashtag a un peu changé, enfin en tout cas parmi l'élite d'Instagram. Et ça, c'est Alice Pfeiffer, la journaliste de mode, qui me l'avait raconté dans un des tout premiers épisodes, quand on parlait de la manière dont Instagram était utilisé dans le monde de la mode.
Le snobisme, c'est qu'il ne faut plus mettre de hashtag parce que ça fait trop ce qu'on dit mendiant du like. C'est une façon de choper plus de followers et c'est qui est très très mal vu.
Ça, il faut avoir pour ambition de choper des followers, mais jamais montrer qu'on a cette ambition-là.
Ah non, 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 il faut une photo qui soit naturellement virale. Le pire que je pourrais taguer, par exemple, ce serait hashtag French Girl. Parce que c'est racoleur comme tout, parce que c'est le truc le plus basique à mettre quand, en tant que fille française ou fille à Paris.
Ah ok, tu apparais aux gens qu'il faudrait attirer comme étant vraiment super plouc.
Et racoleuse.
Ah, et racoleuse.
Ça fait vraiment mendiante, quoi. Il y a aussi la saturation de la personne qui poste trop de stories par jour et ça devient intenable.
Ah oui, c'est ça, il y a une question de rythme.
Ah oui, 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 si tu en fais 18. Il y a aussi la personne qui est plus âgée, qui se trompe et qui met hashtag robe. Ça, c'est par exemple, c'est complètement inutile parce que ça n'a pas de sens.
Okay.
Hashtag bonjour. Les parents sont connus pour hashtaguer tous les mots. Hashtag je, hashtag suis, hashtag la maman d'Alice.
Ce qui est fou, c'est que Anne, contrairement aux prescriptions branchées d'Alice, elle dit qu'il faut mettre des hashtags. Mais la manière dont elle les énumère, elle est tellement ironique qu'on sent bien qu'elle trouve ça un peu ridicule. Au fond, elle n'est pas dupe de ce code ou de cette ambition de visibilité qui sous-tend ce code. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant dans les réseaux. On peut tout à fait adopter des codes en s'en moquant, sans y adhérer totalement. C'est pourquoi il faut toujours se méfier quand on regarde tout ça de loin. Il ne faut jamais, je pense, préjuger absolument du premier degré. Mais bon, c'est comme dans la vie, pour reprendre l'expression de Anne. Je continue de les écouter, mais bon, là, il y a une cassure, je sais pas pourquoi, un vocal me manque, ou peut-être un échange par écrit. On part sur une question un peu autre, les comptes qu'il y a à suivre.
Bien sûr, ça, c'est les gens trop sympas, et j'en suis quelques-uns, mais heureusement que Raphaël m'a un peu orienté. C'est pas facile à trouver au début, mais après, quand tu suis une personne dans ce style de rapport, hop, ça t'ouvre des fenêtres vers d'autres et ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, je suis des gens trop kiki comme ça, qui voyagent et qui tiennent des journaux et qui ont des bonnes auras, des bons karmas, quoi. Et je suis ces gens-là qui font du bien, quoi. Et ça, c'est cool. Comme je suis toute seule, et ben des fois, voilà, de suivre ces gens-là, ça me fait du bien de me retrouver justement dans ces gens-là un peu, quoi. C'est un échange sympa.
La recherche des comptes à suivre, c'est évidemment le travail de toute personne qui arrive sur un réseau social. Les comptes kiki que Anne cherche et trouve, je vois pas très bien qui c'est nommément. Mais bon, j'imagine, j'en connais des comptes comme ça. Ce sont des gens sympas, qui racontent sans prétention leur vie sympa, avec des photos sympas et qui font des récits sympas. Bon, moi j'avoue que c'est le genre de compte qui m'agace, mais alors au plus haut point, mais je comprends qu'on puisse aimer et que ça fasse du bien, comme le dit Anne. À propos, c'est quand même étonnant. Quelques messages plus tôt, alors est-ce que c'est quelques minutes avant ou quelques heures? Ça je sais pas, j'ai pas la chronologie exacte des vocaux. Bon, mais quelques messages plus tôt, Anne disait qu'Instagram, c'était nul à chier. Et maintenant, elle dit que des comptes lui font du bien, et elle ajoute « comme je suis toute seule ». Alors, je sais pas pourquoi Anne dit qu'elle est toute seule. Si elle l'est tout le temps ou parfois, comme ça arrive à tout le monde. Hein. Et je suis frappé qu'à ce moment de la discussion avec Jeanne, elle emploie des termes comme « échange » ou comme « faire du bien ». C'est pas rien quand même, ces termes. Et je me demande quoi penser de cette ambivalence dans le rapport avec une plateforme qu'elle trouve à la fois nulle à chier, mais dont elle dit aussi que certains comptes lui font du bien quand elle est toute seule. En fait, je me demande si c'est pas parce que les réseaux font les deux à la fois. C'est encore une manifestation des contradictions dans lesquelles ils nous plongent. C'est pas une aporie théorique qui nous titille l'esprit, hein, mais c'est une vraie contradiction qu'on éprouve profondément en nous-mêmes. Bon, j'appuie sur le message suivant.
Mais je pourrais te partager des comptes comme ça de gens, t'es pas obligé de t'abonner, tu vas voir. Et voilà, mignon quoi, sympa quoi. Mais il faut que j'ai ton compte Insta, j'arrive pas à partager de Insta à WhatsApp.
Ok, je vais regarder parce que j'en ai un compte Insta, faut que je vois comment il s'appelle, bouge pas.
Quand j'entends ça, évidemment, je me marre. La manière dont Anne prononce « WhatsApp », elle est assez rigolote. Et je me marre d'autant plus que le « bouge pas » de Jeanne qui cherche son compte Instagram, il est sublime. C'est un pur anachronisme, comme on dit en linguistique. Parce que ce « bouge pas », c'est une expression qu'on employait au temps du téléphone fixe et filaire. C'est-à-dire qu'on discutait avec quelqu'un, on voulait vérifier un truc dans son agenda qui était à 3 mètres, on disait « bouge pas », on posait le téléphone, on allait chercher son agenda et on revenait. Le « bouge pas » de Jeanne, il correspond à rien au temps du mobile. A fortiori, dans le cas d'une conversation asynchrone par message vocal. En même temps, du point de vue de la communication, bah, il est parfaitement efficace, hein, on voit très bien ce qu'elle veut dire. Et je trouve ça beau parce que j'aime quand les mots portent la trace d'un usage obsolète et disparu avec les techniques nouvelles. Par exemple, les gens qui continuent à dire qu'ils passent un coup de fil, alors qu'avec le smartphone, les fils par lesquels passaient nos voix ont complètement quitté notre champ de vision. Ou alors les parents qui appellent et qui disent « coucou, c'est maman », alors que bah, maman, c'est affiché sur l'écran. Bon, je me repasse donc le « bouge pas » de Jeanne pour le plaisir, en l'écoutant à nouveau avec une sorte d'ironie que je sais un peu supérieur.
Faut que je vois comment il s'appelle, bouge pas.
Et puis je laisse se dérouler la suite.
Alors je dis WhatsApp volontairement parce que c'est Bruno qui disait ça pour rire et c'est un des trucs qui m'a resté de lui.
Deux choses là. La première, je les ai prises pour plus ignorantes qu'elles ne le sont en réalité. Deuxième chose, pourquoi Bruno disait-il WhatsApp à la place de WhatsApp? Je ne sais pas. Pour une raison un peu générationnelle, je me demande si c'est pas en référence à cette vieille pub pour Budweiser. Du coup, je vais la revoir sur YouTube.
Yo, you pick up the phone.
Hello.
What's up?
What's up? Yeah. Yo, where's Dookie?
Yo, Duke.
Yo.
What's up?
What's up?
En visionnant cette pub que j'avais pas revue depuis des années, mais peut-être qu'en fait je l'avais jamais vue, et que j'en connaissais que le cri qui est devenu une sorte de mème de ma génération. Bon bref, en la visionnant, je découvre un truc dingue. Dans la pub, tout se passe au téléphone. C'est-à-dire que ces gens qui boivent de la Bud sont avachis sur des canapés et s'appellent avec de gros téléphones fixes sans fil. C'est marrant. Et je me demande si c'est à ça que pensait Bruno quand il surnommait WhatsApp « WhatsApp ». Mais bon, de toute façon, je ne peux pas le savoir parce que je ne sais pas qui est Bruno. Et ce que je trouve très beau, c'est ce que Anne dit à la fin. C'est quelque chose qu'il m'est resté de lui. C'est mystérieux, ça. Est-ce que Bruno est mort? Est-ce qu'il est parti? Qui c'était Bruno? Est-ce que c'était un amoureux d'Anne, un ami, un frère? Peut-être un père, un beau-père? J'en sais rien. Mais je trouve que c'est émouvant de garder le souvenir de quelqu'un dans ses expressions les plus triviales. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Jeanne, elle a dû être touchée comme moi.
Ah ouais, moi aussi. J'ai une vieille tante qui disait « pim-pom » au lieu de « ping-pong », j'adore dire ça.
Là, c'est émouvant d'entendre Jeanne parce que il se trouve que cette vieille tante dont elle parle, eh ben, c'est ma grand-mère. C'est vrai que ma grand-mère disait « pim-pom » à la place de « ping-pong ». Enfant, ça m'agaçait beaucoup. Ado, je rattachais ça à quelques bizarreries dans son usage de la langue. Parfois, elle employait mal les expressions. Elle disait par exemple « en toute façon » à la place de « de toute façon » et je trouvais ça hyper laid. Et puis un jour, beaucoup plus tard, hein, après sa mort, j'ai découvert dans une histoire du ping-pong, bah ouais, on a les lectures qu'on peut, hein, donc j'ai découvert que dans un temps très bref de l'histoire de ce sport, il y avait eu une dénomination alternative au ping-pong qui était ping-pong. Ma grand-mère n'avait donc pas inventé ce terme. Elle n'était pas la seule au monde à l'avoir employé, mais elle l'était manifestement assez seule pour que Jeanne aussi s'en souvienne. Et ouais, la conversation par message vocal, elle permet aussi les digressions, et même l'évocation des fantômes. Message suivant, c'est Jeanne.
Alors j'ai trouvé mon compte, c'est Jeanne.
Bon, ben voilà, si tu veux, après ben, je vais sur Insta, et puis comme ça je te partage, par exemple, le compte de Magali Cazo, et puis d'autres personnes qui sont Kiki, par exemple, enfin, je sais pas, tu peux voir quoi, un peu ce qui est genre de truc. Après le compte de Ghoul, par exemple, aussi, voilà, ça t'intéresse ça? Et quand je serai sur Insta, au fur et à mesure que je penserai des comptes à partager, je t'enverrai les liens. Voilà. Des bisous. Ah oui, je te le dis pendant que j'y pense, parce qu'après je vais zapper. Il y a justement un documentaire sur Arte là, qui est sorti sur Insta. Et qui est pas mal à regarder quand même. Mais bon, rien à voir, hein. On peut toujours faire des trucs bien et lutter contre les mauvais algorithmes. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, algorithme.
Je ne sais pas exactement à quel documentaire fait référence Anne là. Peut-être Instagram, la foire aux vanités, qui a été diffusée à la fin de l'été sur Arte et qui prenait un ton alarmiste là, et ces tons qu'on adore prendre quand on parle de ce genre de sujet très flippant.
Chaque mois, nous sommes 2 milliards à nous connecter sur le même réseau social, Instagram. Nous y partageons 100 millions de photos et de vidéos quotidiennement.
En fait, ce que je trouve marrant, c'est que Anne puisse à la fois être au courant, avoir une lecture informée et critique donc, et un usage qu'elle trouve positif. Avec l'idée qu'on peut faire différemment, quoi, qu'il y a une sorte de marge de manœuvre. Alors, est-ce que c'est une illusion ou pas? Je sais pas.
Bon, je t'envoie ce message parce que t'as dit « quand ça me vient, comme ça me vient ». Alors, j'espère que t'as coupé ton téléphone, c'est cool. Alors là, je pensais que vraiment Insta, par contre, il y a une réalité. Insta est misogyne. C'est vraiment très, très hallucinant. Parce que vraiment, si une peintre, Magali Cazo, elle a eu des problèmes avec un bout de téton. Parce que sur ses dessins, il y avait un bout de téton, quoi. Mais ça représentait une colline, c'était un truc contre le cancer du sein. Et ben, elle a été censurée par Insta. C'était hallucinant. Par contre, un mec, j'ai un autre peintre que j'adore, je t'enverrai d'ailleurs le lien. Lui, par contre, il peut dessiner sa bite, no problemo. Une autre petite jeune qui fait de la photo, elle est obligée de se mettre... Il gomme le téton, faut gommer le téton sur Insta, sinon le téton ne passe pas sur Insta. La bite, tout ce que tu veux, oui, pour satisfaire la gente masculine, ça passe. Mais alors attention, hein.
Bon, le téton banni d'Instagram, c'est documenté. La profusion des bites, j'avoue que j'étais un peu moins au courant. Par ailleurs, je comprends pas très bien le raisonnement d'Anne. Que les tétons soient bannis et les bites autorisées afin de satisfaire la gente masculine, je suis pas certain que ce soit la raison prioritaire. Les hommes, enfin en tout cas les hétéros, préfèrent, je pense, voir des tétons que des pénis. Peut-être que c'est lié à un autre phénomène. J'ai été frappé récemment par une chose, j'ai vu beaucoup plus de pénis que de tétons, et a fortiori que de vagin, dans des productions américaines relativement mainstream. Je pense en particulier à la série Euphoria, dont les deux saisons ont fasciné les ados et d'autres du monde entier. Alors certes, les corps féminins y sont sexualisés, mais quant à la crudité de la représentation sexuelle, eh ben, elle est réservée au sexe masculin. Comme dans cette scène mythique où Zendaya, l'actrice principale d'Euphoria, fait une typologie des formes de sexe masculin, image à l'appui, dans une sorte de parodie d'exposé scolaire.
Certains disent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Je suis pas d'accord. Je crois que c'est la bite. et la façon dont on la prend en photo. Il y a deux différents types de photos de bites. Explicite et non explicite. Les photos de bites explicites représentent 1% des photos reçues et envoyées. Mais dans ce 1%, on peut compter trois autres catégories. Terrifiante, horrifiante et acceptable.
J'avais jamais vu ça dans une série américaine grand public. Donc oui, peut-être que Anne a raison et que le sexe masculin est devenu moins tabou que les attributs sexuels féminins. En ça, Instagram ne serait que le reflet d'un phénomène plus global. Il faudrait étudier ça de plus près, mais enfin, en tout cas, ça résonne en Jeanne.
Ça me fait penser à il y a une université mormone aux États-Unis où il y en a qui ont râlé parce qu'ils font les études de gynéco et ils n'ont pas le droit de voir aucun corps parce que ça ne se fait pas chez les mormons, ni des tétons encore moins, ni des sexes. Et ils ont leur diplôme de gynéco.
Décidément, Jeanne, c'est une spécialiste de la digression. Bon, cela dit, celle-ci, de digression, n'inspire pas beaucoup Anne, qui revient au sujet, mais sans qu'on sache pourquoi, sa voix se fait un peu plus traînante.
Mais c'est intéressant, Insta, par rapport à YouTube, c'est beaucoup plus facile d'accès. Et tu peux créer des comptes pro, et enfin plein de comptes, quoi.
Sur le moment, j'ai pas très bien compris ce que Anne voulait dire par « facile d'accès ». Si on se place du point de vue du visionnage simple, hein, je dirais que YouTube est plus facile d'accès qu'Instagram. Mais en fait, je pense qu'elle parle en termes de création de contenu. Et c'est vrai qu'il y a une facilité extraordinaire d'Instagram. Ça demande aucun matériel autre qu'un téléphone, pas de montage, un bon filtre peut régler les questions de lumière. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres, hein, plus professionnels que d'autres aussi. Enfin, le coût d'entrée, il est moindre que pour une vidéo, ça c'est une évidence. Et ça me fait penser à ce que disait Ethan Zuckerman dans l'épisode précédent. Il expliquait que son critère pour prédire le succès et qualifier l'intérêt d'un service, c'était justement la question de la facilité de participation.
Pourquoi TikTok a décollé aussi vite? Vous pointez une caméra vers vous, vous chantez, vous faites une blague et vous pouvez devenir viral. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Or, ce n'est pas du tout le cas dans le métavers. La modélisation 3D, c'est difficile. Même décider du monde dans lequel on veut vivre en 3D est difficile. Est-ce qu'il faut qu'il y ait la gravité? Comment on se déplace? Quels objets on peut bouger? Lesquels sont fixes? Donc je regarde toujours la facilité avec laquelle on crée des contenus plus que la facilité avec laquelle on consomme. Je regarde ce que les gens font vraiment plutôt que ce qu'ils disent faire. Et je regarde les choses véritablement intéressantes que font les gens et qu'on ne s'attendait pas qu'ils fassent.
Voilà, Ethan se sert de ce critère pour douter du métaverse d'ailleurs et de son avenir. Bon, Anne continue sur la facilité d'accès à Instagram, comme elle dit.
Et les musiciens, souvent, ils font des publications avec des liens. Ils envoient des liens où tu peux écouter plus longuement leur musique sur je ne sais pas quoi, j'ai pas enregistré, je t'avoue. Du coup, pour les bols tibétains, ce serait vraiment intéressant.
Là, il faut que je fasse une précision. Ça n'est pas un hasard si Anne parle de bols tibétains. Parce que Jeanne est une spécialiste des bols tibétains. À côté de son métier de prof de flûte, elle pratique très sérieusement la relaxation grâce au son émis par ces bols. Et elle a même intégré un protocole de recherche sur la question dans un service hospitalier. Je dois reconnaître que je ne suis pas très familier de tout ça, alors j'ai tapé « bol tibétain » sur YouTube un peu bêtement, et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Guillaume Gonin, qui est sonothérapeute, et j'ai écouté. C'est assez apaisant, en effet. Anne, en tout cas, ça a l'air de la faire un peu marrer.
Je vais aller voir ce qu'il y a en tapant hashtag bol tibétain. Ah ben dis donc, je suis allée voir, il y a du monde, hein, t'as de quoi te faire des amis là. Hein. Bonne prospection.
On a quand même un peu l'impression qu'elle se fout vaguement de Jeanne. Enfin, n'empêche que ça provoque chez elle une montée, en généralité, euphorique.
Ce qui est chouette sur Insta, c'est que tu te fais des amis dans le monde entier. Et du coup, quand tu voyages ou quand tu bouges, même dans la France, tu t'en profites pour voir les gens avec qui tu as sympathisé. Et ça, c'est vachement chouette.
Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que Anne reprend à son compte le terme d'ami. Et c'est loin d'être une évidence, hein. D'abord parce que ça n'est pas le terme utilisé dans Instagram, on parle de followers, hein. Ensuite parce que la génération d'Anne a été très prompte, quand le terme est apparu avec Facebook, à décrier cet usage du terme « ami », en disant que l'amitié des réseaux sociaux, bah, c'était pas la vraie amitié. Bon, c'est une critique qui m'a toujours paru assez étrange dans la mesure où la notion d'amitié dans le monde physique, hein, recoupe des réalités très très diverses selon les gens, selon les cultures, il suffit de passer une semaine aux États-Unis, ou selon même les moments de la vie. Donc je trouve intéressant que Anne utilise ce terme sans ironie. Eh ben oui, on se fait aussi des amis dans les réseaux. Par ailleurs, ce qu'elle raconte recoupe des pratiques répertoriées qui montrent une fluidité entre le monde physique et le monde numérique. On peut entretenir des amitiés uniquement numériques, les amitiés numériques peuvent devenir physiques, et inversement, avec la distance par exemple, les amitiés physiques peuvent devenir uniquement numériques. Ça, dans un épisode précédent, Cybèle L'Espérance, la travailleuse du sexe geek, elle le racontait très bien.
Je venais d'un petit archipel, je suis arrivée sur la Grande Terre un peu perdue, avec des valeurs assez différentes, et donc j'avais de la difficulté à nouer des relations directement dans mon environnement, mais une fois médiée par l'Internet, ça passait très bien. Donc je me suis retrouvée sur un canal d'adolescents, en fait, et entre 14 et 17 ans, j'ai organisé des meetings en ligne, des get-together, des GT, comme on les appelait.
C'est quoi ?
C'est des rencontres en ligne, des meet-up. Allez, on se dit, tous les gens du canal qui sont dans telle ville, à Montréal, bon, moi j'étais à Gatineau à l'époque, on essaie de se rencontrer dans tel café, et on va se faire des badges, savoir lequel est lequel, et on se connaît par nos surnoms. Il y a encore des gens comme ça avec qui je suis en contact.
Mais enchaînant sur toute autre chose, Jeanne raconte qu'elle a une envie.
Moi, je fantasme souvent, j'ai des idées, tu sais, je me dis, par exemple, en ce moment, je me dis, j'aimerais, parce que j'ai écrit un journal pendant le confinement, et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont écrit des journaux aussi comme ça, dans les quatre coins du monde, au même moment, pendant qu'ils étaient confinés dans la merde, et j'aimerais comparer ce qu'on en pense, tu vois, que chacun publie une page par jour de son journal de ce moment-là.
Oh bah ouais, c'est cool ça. Ça doit pouvoir se faire, tu fais ton compte pour ça. Enfin, je sais pas, faut aller voir ce qui se fait. Enfin, moi, je fais comme ça, mais toi, tu fais ton truc. Ouais, ça peut être super sympa, grave. Tu tapes hashtag journal confinement, puis tu verras les gens qui ont fait ça. Mais quand tu cherches un truc, tu fais toujours le hashtag devant, tu tapes là avec la loupe et tu vas voir tous les gens qui ont fait ça.
Il est possible que Anne ait relâché le bouton un peu vite. Pas grave, elle enchaîne.
Est-ce que Lune pratique Insta ?
Lune, c'est la petite fille de Jeanne. Elle a 19 ans. Et c'est drôle que Anne pose cette question. Bon, d'abord la formulation. Est-ce que Lune pratique Insta ? Ça paraît incongru comme formulation. On dirait plutôt « est-ce que Lune est sur Insta ?» Mais bon, c'est pas bête comme manière de dire « pratiquer Insta ». Et puis, c'est drôle comme interrogation. Moi, je vois pas pourquoi Anne pose cette question, tant la réponse me paraît une évidence. Ce serait d'avoir 19 ans et de ne pas être sur Insta qui serait une rareté.
Oui, Lune pratique Insta, mais je pense que j'aurais rien compris à ces explications. C'est beaucoup mieux les tiennes. Je te remercie.
De rien, Jeanne, avec plaisir, parce que je sais pas grand-chose en vérité.
Évidemment qu'elle sait plein de trucs, Anne. Alors, je sais pas si sa modestie est sincère ou feinte. Enfin, en tout cas, elle me touche, quoi. Quant à la remarque de Jeanne, quand elle dit que sa petite fille lui aurait sans doute expliqué Insta d'une manière qu'elle n'aurait pas bien comprise, ça, je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que pendant toute la discussion, Anne a employé des mots qui étaient peut-être pas exactement les mots adéquats, mais ils étaient ceux que Jeanne comprend. Pour le dire autrement, c'était pas forcément les bons mots, mais sans doute les plus efficaces. Et ça, c'est évidemment un des obstacles à la pédagogie intergénérationnelle dans le numérique. Il reste un dernier message. Je vois pas de quoi ça peut parler exactement. Je le lance.
Et j'adore parler comme ça parce que je trouve qu'on s'écoute mieux.
Je ne sais pas combien de temps exactement s'est déroulé entre le début et la fin de cet échange. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est passé pendant ce temps-là. Puisque, au questionnement technique du début, Jeanne n'avait pas trop l'air de savoir comment marchaient les vocaux, répond cette remarque de Jeanne. J'adore parler comme ça, je trouve qu'on s'écoute mieux. Plein de trucs ont été dits et écrits sur les vocaux, sur ce retour de la voix qu'on pensait disparu avec l'avènement du texto. Plein de trucs ont été dits et écrits sur les avantages et les inconvénients de ces discussions par la voix, mais asynchrone. Personnellement, il m'est arrivé une expérience qui m'a fait réfléchir. Cette année, ma fille aînée, qui a 15 ans, est partie faire son année scolaire au Canada. Son plus jeune frère, qui a 3 ans, a été troublé par ce départ et comprend pas bien où elle est. Il pense que le Canada, c'est le truc qui suit le collège, ou alors que c'est un endroit dont on peut revenir en 5 minutes juste pour regarder un truc dans sa chambre. Il a envie de lui parler à des moments incongrus. Alors, au début, on a organisé des discussions en visio, mais c'est compliqué pour tous les deux. Avec le décalage horaire et la vie de chacun, ça tombe jamais au bon moment. Lui, il tient 2 secondes, puis après, il fait n'importe quoi. En général, il éteint la conversation. Et puis, elle, elle trouve pas le bon ton pour lui parler. Et puis, un jour, on a essayé les messages vocaux. Eh ben, c'est beaucoup mieux. Quand il en a envie, il lui laisse un message. C'est toujours un peu le même, d'ailleurs. Ça donne à peu près ça.
On peut venir ici pour que... En fait, on vient faire des... avec toi, faire des trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est pas comme... Moi, j'ai fait un...
Tu veux faire un bisou? Tu lui dis bonne nuit?
Bonne nuit, oui. Pouk.
Elle, elle l'écoute quand elle veut, et quand elle veut, pas assez souvent à mon goût, elle lui répond. Et lui, il écoute tranquillement le message. On a l'impression que c'est pas tellement ce qu'elle lui raconte qui est important, mais juste qu'il l'entend lui parler. Je dis pas que ça résout tout, mais c'est toujours intéressant de constater comment à chaque moyen de communication, on finit toujours par trouver des usages spécifiques et assez vertueux. Alors, je me demande évidemment quel sera le suivant. J'en étais là de mes réflexions quand Fanny, ma super réalisatrice, m'a écrit par texto, et ta fille, elle utilise Insta ? Tu crois qu'elle penserait quoi des deux vieilles ? Alors, Fanny, évidemment, elle avait mis des guillemets à vieille, hein, ce que j'ai trouvé très élégant d'ailleurs dans un texto. Plus personne met des guillemets dans des textos. Bon, bref, je lui réponds « Ah, mais quelle excellente idée !» Je vais lui demander. Pof, j'envoie la conversation de Jeanne et Anne par WeTransfer au fin fond du Canada, et quelques heures plus tard, m'arrivent 3 vocaux.
Bah déjà, elles sont trop mignonnes les deux. Et puis je sais pas, je trouve que Anne elle explique hyper bien, genre je pense pas que je puisse mieux expliquer qu'elle à une personne âgée comment utiliser Instagram. Genre elle s'y connaît bien et tout. Et en vrai je trouve ça trop cool qu'elle voit les bons côtés et genre qu'elle ait limite des projets en tête. Enfin genre, je sais pas, quand elle dit qu'elle veut poster des trucs de son journal et tout, c'est quand même... Enfin je sais pas, c'est trop bien quoi, elle pourrait grave le faire. Et en fait je trouve ça trop cool qu'elle découvre des problèmes que genre nous on connaît depuis hyper longtemps, genre comme par exemple la misogynie sur Instagram, que genre c'est quand même pas une révolution mais qu'elle le découvre maintenant, enfin je sais pas, je trouve ça trop marrant. Et puis, je sais pas, j'aimerais trop voir leur compte Instagram, du coup, genre, ça me donne trop envie quand elles se racontent des trucs. Et après, en vrai, je me demande un peu comment elle a appris à utiliser Instagram, et genre, je me demande pourquoi elle s'y est mise. Enfin, je comprends quand elle dit qu'elle se sent seule et que regarder Instagram, ça l'intéresse et tout. Enfin, du coup, ça me fait un peu poser des questions sur est-ce que ça serait bien que, genre, il y ait des sortes de petits cours pour les vieux et genre, pour qu'ils apprennent à utiliser Instagram et tout. Enfin, je vois, pour Granny, par exemple, si elle avait un meilleur téléphone, et bon, on pourrait lui montrer Instagram, peut-être qu'elle pourrait faire ça aussi, genre, je sais pas, suivre des comptes de théâtre ou de danse, et puis pouvoir avoir un accès plus facile à ça et tout. Et en vrai, même le truc où elle s'envoie des messages vocaux, je trouve ça hyper drôle parce que genre, je sais pas, je trouve ça marrant, genre elle trouve que c'est un truc de fou alors qu'en vrai elle pourrait juste s'appeler. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle découvre plein de trucs et c'est trop mignon, genre t'as vraiment envie de partager du coup avec d'autres personnes. Parce que la plupart du temps quand même, les vieux, quand ils voient notre génération avec Instagram et Internet, ils prennent pas le temps de comprendre. Genre, ils se disent tout de suite que c'est nul et que ça sert à rien. Du coup, ça donne pas envie de leur apprendre. Alors qu'en vrai, je me dis que, par exemple, peut-être que Granny, elle réagirait comme ça. Et du coup, ça me donne un peu envie de lui en parler. Et genre, je sais pas, d'essayer de voir avec elle si ça pourrait l'intéresser ou pas.
C'est drôle parce que, avant même que ces vocaux m'arrivent, Fanny, ma super réalisatrice, m'avait envoyé un texto qui lui ressemble beaucoup. Vraiment, de plus en plus, je me dis qu'il faut créer entre les plus vieux et les plus jeunes une conversation sur les sujets numériques.
mais je ne sais pas trop vers quoi ça mène cette idée. Bref, j'arrête de te flouder. Bise.
Merci du fond du cœur à Jeanne d'avoir conservé cette discussion, d'avoir pensé qu'elle pouvait m'amuser, et à Anne, évidemment, d'avoir autorisé sa diffusion. À la prise de son, c'était Julien Michel, au mixage Basile Bocquer, réalisation Fanny Boyon. C'était Le Code a changé, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.